conversation avec Hanan Arat. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec les Marocains du monde. Aujourd'hui, nous conversons avec une réalisatrice de films documentaires, des films qui portent sur l'histoire, l'actualité ou les cultures du Maroc et du Proche-Orient, avec un intérêt particulier pour l'histoire juive du Maroc. Elle vient de présenter un film très personnel, très touchant, consacré à une figure majeure du judaïsme marocain, Feu Edmond Amran El-Maleh. Simone Bitton est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce film, Les 1001 jours du Hajj Edmond, et nous ouvrir la porte de ses souvenirs avec cet immense militant, journaliste et écrivain. Simone Bitton, bonjour, vous êtes avec nous depuis Paris. Merci d'être avec nous.
Bonjour Hanan, oui, je suis à Paris où il fait gris et froid et le Maroc me manque.
Eh bien, on vous envoie plein de soleil.
J'arrive.
Alors, je le disais, vous avez consacré votre dernier film à cette immense figure qu'était Edmond Amran El-Maleh. Peut-être en guise d'introduction, j'ai envie de vous demander si vous deviez le résumer, et je sais que ce n'est pas un exercice qui est facile, si vous deviez le résumer en quelques mots, quels seraient ces mots, deux, trois mots pour dire Edmond Amran El-Maleh?
Alors effectivement, c'est pas facile, mais le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est écriture ou bien écrivain, parce que Edmond était quelqu'un qui écrivait tous les jours, depuis sa jeunesse et jusqu'à ses derniers jours, il a toujours écrit, toujours, que ce soit des tracts, des articles, des romans, des essais, parfois des préfaces, des livres sur la peinture, il écrivait tous les jours.
Le deuxième mot?
Alors, le deuxième mot, pour moi, c'est amitié. Parce que, non seulement parce que j'avais le plaisir d'être son ami pendant les années où je l'ai connu, mais parce que pour lui, je pense que l'amitié était vraiment la chose, avec l'écriture, la plus importante de sa vie. Edmond ne pouvait pas, je pense qu'il n'a jamais déjeuné seul, jamais. Il n'était jamais seul. Il était toujours entouré, sa porte était toujours ouverte et les gens aimaient aller chez lui parce qu'il était d'une compagnie absolument délicieuse et donc il entretenait ses amitiés. C'était vraiment tout un art chez lui d'entretenir l'amitié. Il en voulait beaucoup lorsque l'un de ses amis, lorsqu'il apprenait que quelqu'un était passé par là et n'était pas venu lui rendre visite, ça faisait des scènes qui étaient comme des scènes de jalousie d'amour, quoi. L'amitié, c'était vraiment... Edmond, c'était l'amitié. Voilà.
On le ressent d'ailleurs très bien dans votre film parce que toutes les personnes que vous êtes allées rencontrer pour recueillir leurs témoignages sur leur relation avec Feu Edmond Amran El-Maleh, tous parlent de cette amitié et de cette convivialité. Tous soulignent par exemple qu'il faisait la cuisine pour tout le monde quand il se réunissait chez lui et qu'il y avait un côté très famille, très convivial finalement dans sa maison et autour de lui.
Exactement. Et il avait l'art de donner à chacun l'impression qu'il était pour lui unique. Voilà. Chacun pouvait se considérer comme son meilleur ami. Il avait cet art-là. Voilà.
Alors, en regardant ces scènes et ces témoignages, je pensais à la chanson de Brassens, Les copains d'abord. Je trouvais que toutes ces scènes et ces témoignages me faisaient beaucoup penser à cette chanson.
Oui, c'est bien, c'est ça, c'était très important. Et puis, il y a quand même un autre mot qui est indissociable de lui, c'est Maroc ou bien Marocain, parce que il écrivait tous les jours, mais il n'a jamais écrit que sur le Maroc. Tout ce qu'il écrivait avait un lien avec le Maroc. Le Maroc était son grand amour, son obsession, c'est à partir du Maroc qu'il s'ouvrait au reste du monde. Il n'était pas du tout refermé ni ni chauvin, ni il était très ouvert sur la culture universelle, mais tout partait du Maroc.
On va y revenir à cet attachement du Maroc dans un instant, puisque ça fait partie des grands thèmes qui ressortent de la vie de Edmond Amran Melleh. Mais avant de développer ces différents points, j'aimerais vous demander en deuxième question introductive, où s'est enraciné ou d'où vient ce désir que l'on sent comme une nécessité hein, dans votre narration de lui dédier ce film ?
Ah ben, déjà, vous savez, faire un film, c'est très difficile. Donc, si on n'a pas un élan très profond pour le faire, le genre de film que je fais, en tout cas, on le fera jamais. Donc oui, j'avais un élan très profond. Pour des tas de raisons, la première étant peut-être que je ressentais très fort le besoin de reconnaître une sorte de filiation que j'estime avoir avec lui. Il m'a transmis quelque chose et moi, j'arrive à un âge où j'ai moi-même envie de transmettre et voilà, l'élan, il a dû venir de là, quoi. Je le dis d'ailleurs à un moment dans le film, comment te continuer? Parce que ça devient difficile. J'ai envie de le continuer. Et moi, mon mode d'expression, lui, le sien, c'était l'écriture. Moi, c'est le cinéma. Donc, j'ai essayé de, voilà, à la fois de lui rendre hommage, de le raconter et de le continuer pour ce film.
Oui, effectivement, c'est une question que vous vous posez. Une première question, c'est comment te raconter, voilà ce que vous lui dites. Et puis ensuite, c'est comment le continuer, parce que vous regrettez dès le départ, c'est ce que vous dites dès le début, que tous ces écrits, on ne les trouve plus dans nos librairies aujourd'hui, d'où votre choix d'avoir pris des extraits de ces différents écrits et de les avoir emmenés chez les personnes qui l'ont connu et de leur demander, en plus de leur témoignage, de lire des extraits. C'est ce sur quoi vous vous êtes appuyé.
C'est assez étonnant ce qu'il se passe, et réjouissant d'une certaine manière, ce qu'il se passe avec Edmond au Maroc, c'est que tout le monde connaît son nom, tout le monde a entendu parler de lui, cependant très peu de gens l'ont lu, y compris des gens qui étaient ses amis. Ce n'est pas tout à fait de leur faute, d'une part parce qu'il n'était pas un écrivain facile, sa langue était raffinée et belle, mais elle peut paraître hermétique si on ne prend pas le temps. Il avait besoin de lecteurs actifs. C'est un travail un petit peu de lire du Edmond Elmaleh. Et puis, c'est parce que on le trouve pas. Mais ce n'est pas un problème seulement. C'est pas seulement son problème. Il y a, je crois, au Maroc, un problème général de distribution de livres, de pas assez de lecture, dont je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est vrai que pour moi, ça me tord toujours le cœur d'entrer dans une grande librairie au Maroc et de demander « Est-ce que vous avez des livres d'Edmond Elmaleh ?» Et la réponse est toujours non. Et c'est très triste. Il existe un peu dans les librairies, dans les bibliothèques. Il y a un exemplaire par-ci, par-ça. Un étudiant qui veut vraiment absolument lire va se débrouiller pour trouver un vieil exemplaire, mais on ne le trouve plus. Il est épuisé, il n'est pas réédité, il n'est pas traduit non plus, alors qu'il devrait l'être. Il n'est pas traduit en arabe, sauf deux ou trois livres. Et ça me rend très triste.
D'où ces extraits qui ponctuent régulièrement votre film.
Avant tout, je ne voulais pas justement tomber dans le piège de raconter sa vie sans raconter son œuvre, parce que c'est vrai que sa vie est intéressante en elle-même, elle est attachante en elle-même, et le personnage lui-même, il y a des tas de choses à en dire sans parler de son écriture, mais ça ne m'intéressait pas, et je pense qu'il n'aurait pas trop aimé ça non plus. pour moi, il est avant tout un écrivain, et je voulais faire entendre ses mots. Je voulais donner au spectateur l'envie d'être un lecteur.
Alors, et pourtant, il a écrit tard. Son premier livre est paru alors qu'il avait 63 ans.
Oui, il a écrit tard de la littérature. Mais avant d'écrire de la littérature, comme je vous l'ai dit, il a toujours écrit. Puisqu'il a fait beaucoup de journalisme, il a fait beaucoup de journalisme d'abord engagé, puisqu'il écrivait des grandes parties du journal, comme il était communiste, et il écrivait dans l'organe du Parti communiste à l'époque, qui s'appelait L'Espoir, et parfois dans le même numéro, dans le même exemplaire de L'Espoir, il y a plusieurs textes de lui signés par des noms différents. C'est-à-dire qu'il écrivait parfois une grande partie du journal tout seul. Ils n'étaient pas très nombreux à écrire dans ce journal. Ensuite, il a écrit beaucoup d'articles de philosophie, d'entretiens avec des philosophes, avec des intellectuels. Il était une des plumes du monde des livres lorsqu'il habitait en France. Donc, il écrivait. Et puis, il avait toujours dans sa poche un petit carnet. Toujours. On a retrouvé, après sa mort, des dizaines de ces petits carnets. Il prenait des notes tout le temps. Mais effectivement, ce n'est qu'après la soixantaine qu'il a, je dirais, osé entrer enfin en littérature. Jusque-là, il était un conteur pour ceux qui l'entouraient. Il nous racontait toujours des histoires. Il était un conteur formidable, un hakawati. Il avait l'art de raconter une histoire, de la prolonger, de l'emberlificoter dans des tas de ramifications, et on attendait la chute et on pouvait passer des heures à l'écouter. Et je pense que, et puis tout le monde lui disait, mais enfin, quand est-ce que tu vas te mettre à écrire vraiment? Et c'est effectivement assez rare. Il avait 63 ans quand son premier récit a été publié. D'ailleurs, plusieurs de ses livres, il les appelle non pas romans mais récits, parce qu'il raconte.
Il a vraiment un don de conteur. Comme vous dites, il y a une scène notamment où il parle juste des épices marocaines, et la façon dont il les énumère les unes après l'autre, c'est tout un spectacle.
Oui, c'était un conteur. Ouais.
Alors, j'aimerais qu'on revienne à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le premier point un peu important pour évoquer l'itinéraire et la vie de Fereïd Mohamed El-Maleh, c'est son attachement au Maroc. Dans le film, il y a un moment, un extrait où il dit « Je suis juif marocain, il n'y a aucun sens à mettre en question ce qui ne peut l'être ». Quelle place tenait le Maroc, ses souvenirs d'enfance, son rapport au Maroc, son rapport au peuple aussi, aux petites gens du Maroc, qui étaient si importants pour lui dans ses écrits?
Ah ben, c'était la place numéro un. Le Maroc, c'est-à-dire Edmond est entré dans la vie active par le patriotisme, c'est-à-dire qu'il s'est engagé jeune dans le mouvement communiste et dans le mouvement pour la libération du Maroc. Il a été un patriote engagé, et il a pris des risques. Il y a eu des époques pendant que l'essentiel de la direction officielle du parti était déporté, par exemple, où il dirigeait quasiment le parti dans la clandestinité à Casablanca. Il vivait chez les dockers, caché sous des fausses identités. C'était vraiment un militant, on pourrait dire presque un combattant de l'indépendance, même s'il ne portait pas les armes. Et ça, c'est une expérience très importante dont il a toujours été, qu'il a toujours assumé, et qui a, je pense, retenti sur toute sa vie. Quand on s'est battu pour l'indépendance d'un pays, ce pays vous est d'autant plus cher, je crois. Mais lui voyait l'indépendance comme quelque chose de plus grand, je crois, que l'indépendance uniquement politique. Lui est toujours beaucoup tenu à cœur il a beaucoup décrit l'aliénation culturelle que crée la colonisation, à commencer par l'aliénation du langage. Il a beaucoup écrit sur le fait que le français, la langue française a séduit les élites juives, mais aussi certaines élites bourgeoises musulmanes, au point de les couper de leur propre peuple. C'est ce qui nous est arrivé. Je me mets dans l'équation, puisque je suis moi-même juive marocaine et qu'il m'est arrivé la même chose. J'ai été coupée de la langue qui aurait dû être ma langue naturelle par l'aliénation coloniale. J'y ai gagné une éducation de bonne qualité, je suis heureuse et j'aime beaucoup la langue française et je vis en France aujourd'hui. Mais il n'empêche que le fait de ne pas bien parler l'arabe, de ne pas bien le lire, m'a coupée de ce qui était mon peuple. Et lui ressentait cela très, très fortement et l'a toujours très bien exprimé. Et quand il dit « il n'y a aucun sens à remettre en question ce qui ne peut l'être », c'est parce que ça l'insupportait un peu qu'on lui pose cette question. C'est quoi pour toi être marocain? C'est quoi pour toi être juif? Il n'y a pas de raison de poser cette question puisque je le suis, tout simplement. Voilà.
J'allais venir à cette question de la langue qui est une partie intégrante et essentielle de son attachement au Maroc. Vous venez de l'évoquer, il regrettait l'effacement de formules marocaines. Alors il parle du fait de remplacer « ah » par « aïe », de remplacer « imma » par « maman », de ne pas rire trop fort, de ne plus manger avec les doigts. Et il dit « autant d'interdits pour apprendre à ne pas vivre ». Et il parlait de la langue arabe comme d'un feu ardent qui restait en lui même s'il écrit en français.
Il disait aussi que c'était la doublure du manteau. J'aimais beaucoup cette expression. C'est-à-dire que le manteau était français, mais la doublure était arabe. Elle était marocaine. C'était la darija qu'il avait dans son sang, plus que l'arabe littéraire. Sa darija était merveilleuse. Hein. Il parlait très très bien. Il avait une manière délicieuse de parler darija. Par contre, l'arabe langue classique, l'arabe écrite, celle-là, il la maîtrisait pas. Il la comprenait, il pouvait un petit peu se faire comprendre, mais ce n'était pas sa langue d'expression, c'est un fait, c'était pas la langue dans laquelle il pouvait écrire.
Qu'est-ce qui l'inspirait comme histoire pour écrire ces récits? Est-ce que c'était l'observation de la vie autour de lui? Est-ce que c'était des histoires réelles? Est-ce que, au-delà de ses souvenirs d'enfance et de ce qu'il attachait lui au Maroc, qu'est-ce qui l'inspirait? Je me souviens, dans votre film, vous partez à un moment à Assila chercher la tombe de quelqu'un dont il parle dans un de ses romans et vous ne retrouvez pas cette personne. Est-ce que tout était fiction ou est-ce que il y avait beaucoup de l'inspiration du quotidien dans ce qu'il écrivait?
Alors moi, je dis, peut-être que ça ne lui aurait pas plu de m'entendre dire ça, mais je pense que son œuvre est quasiment entièrement autobiographique. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il n'a toujours parlé que de lui-même et que des gens qu'il a connus et que des choses qu'il a vécues ou des choses qu'il a observées. Bien sûr, tout était fiction. Bien sûr, il prenait d'immenses libertés. Il prenait d'immenses libertés avec le réel, mais tout était basé sur son expérience personnelle et pas seulement sur l'enfance, sur sa vie en général, sur l'enfance, sur l'engagement politique, sur le désengagement politique lorsqu'il a quitté le Parti communiste, sur l'exil qu'il a vécu en France, sur le retour, sur sa proximité avec le peuple. Tout était lié à son expérience personnelle et c'est une des raisons pour lesquelles il est beaucoup plus facile de le lire quand on l'a connu que quand on l'a pas connu, parce que Tous ces romans sont un peu des romans à clé, on se retrouve dedans. Moi-même, je me retrouve dans certains de ces romans, parce que dès qu'on intégrait son cercle, on courait ce risque, qu'on court en général avec tous les grands écrivains, c'est-à-dire de se retrouver d'une manière un peu fictionnalisée, mélangée avec d'autres gens, mais il y a plusieurs personnages dans au moins deux de ces romans où je sais que c'est moi, ça ne peut être que moi, parce que ce sont des choses que c'est moi qui lui ai racontées et qu'il a vécu avec moi, et ça ne peut être que moi.
D'ailleurs, vous dites que vous étiez son espionne littéraire.
J'étais son espionne littéraire, en tout cas, en tout ce qui concernait lorsqu'il parlait des Juifs marocains qui étaient maintenant en Israël. Lorsqu'il parlait d'eux, comme lui n'avait jamais mis les pieds en Israël, il ne voulait pas y mettre les pieds, il était absolument, complètement réfractaire à cette idée et au sionisme. Pour lui, le pays des Juifs marocains, c'était le Maroc et rien d'autre. Par contre, ça l'intéressait et ça le touchait. Il voulait savoir ce qu'étaient devenus les Juifs partis en Israël. Et comme moi, j'y avais vécu, et lorsque je l'ai connu, cela faisait pas très longtemps que j'avais quitté, donc il me posait beaucoup de questions. Et je retrouvais des scènes que je lui avais racontées, je les retrouvais dans ses livres. Donc c'est pour ça, je lui disais de temps en temps, tu m'utilises comme espionne, parce que cette scène-là, c'est moi qui te l'ai racontée. Voilà.
Mmh. Alors, vous faites une parfaite transition avec la deuxième thématique que je voulais évoquer avec vous, c'est tous ces engagements politiques, vous l'avez évoqué au sein du Parti communiste marocain, mais aussi ces engagements sur la question de la Palestine. Il se définissait comme un juif libre. Que recouvrait pour lui cette formule? Qu'est-ce qu'elle signifiait pour lui?
D'abord, il était juif. Voilà. Il était à la fois agnostique, c'est-à-dire pour lui, ce n'était pas une question d'observance religieuse, c'est-à-dire il mettait pas les pieds à la synagogue, ou alors très rarement, il ne priait pas, mais sa judéité était très profonde, et il a beaucoup écrit sur l'expérience juive marocaine. Pour lui, être juif, c'est une expérience. C'est une expérience et c'est une mémoire. C'est un patrimoine, c'est un héritage, c'est une culture, c'est une civilisation à l'intérieur de la civilisation marocaine. Et ça, il l'était sans aucun doute et de la façon la plus évidente et belle et revendiquée. Et puis libre, il était libre parce que pour lui, être juif, ça voulait pas dire être, par exemple, membre de la communauté juive. Ça, c'est non. Voilà, il était juif. Voilà, il était juif et il était marocain. Je pense que c'est ça. Quand on dit qu'il était libre, c'est qu'il était libre de représenter quoi que ce soit. Il ne représentait que lui-même.
Et en fait, il était réfractaire à l'idée d'une solidarité mécanique avec toute communauté, au prétexte de sa judéité.
En tout cas, sûrement de la solidarité avec Israël, ça c'est sûr, il n'a jamais été solidaire d'Israël. Il a toujours été très critique de l'idée même d'un État juif.
Alors, il est dit à un moment dans le film qu'il était radical et sincère. En quoi tenait sa radicalité ?
Sa radicalité par rapport au sionisme, c'était ça. C'est-à-dire qu'il était parfois encore plus anti-sioniste que les amis engagés qui l'entouraient, y compris palestiniens. Il était très, très radical sur ces questions. Parfois, c'était presque drôle parce qu'il ne voulait absolument pas en entendre parler. Parce que pour lui, ça aurait été justement traduire, ça aurait été une trahison de son héritage et de son attachement au judaïsme arabe, pas seulement au judaïsme marocain. Ce qu'il reprochait le plus, je crois, à Israël, en plus du mal que cela a causé aux Palestiniens et au Moyen-Orient tout entier, c'est d'avoir arraché les Juifs arabes, et en particulier les Juifs marocains, à leur pays.
Il est en effet beaucoup question de la place que tenait le judaïsme arabe dans sa pensée tout au long de ce film. On le voit, il était attaché à beaucoup de combats qui occupaient ses écrits et son travail intellectuel. S'il était encore avec nous aujourd'hui, quel combat, quel mouvement, quelle lutte le passionnerait aujourd'hui?
Alors ça, c'est une question vraiment, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre à la place de quelqu'un qui n'est plus là. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il aurait ressenti ou de qui il aurait été proche. Par contre, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle génération qui, elle, comme s'il avait été en avance sur son temps. Et je pense qu'une certaine génération aujourd'hui qui se dit... qui se dit décolonial. Dans notre génération, on disait anticolonialiste. Maintenant, il y a des jeunes dans les pays du Sud, mais aussi en Occident, qui se disent décoloniaux, c'est-à-dire justement qui mettent beaucoup l'accent sur la décolonisation culturelle. Et je pense que ces jeunes-là se reconnaîtraient dans l'écriture d'Edmond, s'ils avaient l'occasion de la lire aujourd'hui. Je pense qu'en cela, il était en avance sur son temps. C'était très important pour lui. Par exemple, lui, une des choses qu'il m'a appris, c'est que il y avait un peu du mépris colonial dans le fait de tellement séparer au Maroc l'artisanat de l'art. Pour lui, l'artisanat, c'est dire artisanat, c'est une manière de déprécier l'art. L'art marocain, il n'était pas dans des tableaux qu'on accroche au salon. Il était dans l'art de ceux qu'on appelle les artisans. Et c'est évident. Quiconque est allé au Maroc le sait, même aujourd'hui où beaucoup de ces choses sont abîmées par la mondialisation, mais quand même, les Marocains ont un sens esthétique incroyable. Et Edmond disait toujours, mais regardez un vendeur dans le souk qui arrive avec trois poivrons et deux tomates et quelques herbes à vendre, et la manière dont il les installe sur un petit bout de toile de jute, c'est un tableau, c'est une composition. C'est un artiste, voilà. Pour lui, ces gens. Les gens qui faisaient des poteries, les gens qui faisaient de la céramique, les gens qui travaillaient le bois, les gens qui faisaient des tapis magnifiques, étaient des artistes. Ils n'aimaient pas le mot artisan. Ils le trouvaient colonial. En cela aussi, il était radical. Je crois que c'est quelque chose qui plairait beaucoup à cette nouvelle jeunesse engagée, voilà,
ce mouvement décolonial.
Ouais.
Alors, vous faites toutes les transitions pour moi aujourd'hui, Simone, c'est merveilleux, puisque le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était son amour justement des arts et des artistes. Il y en a beaucoup qui témoignent dans votre film du lien qui les unissait à Edmond Hamrane El Maleh. D'où lui venait cette forme de curiosité, cette forme de passion pour les artistes, dont certains qu'il a connus à Paris, je pense à Yamou par exemple, d'autres ici, et qu'est-ce qu'il leur apportait, lui, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, qui fait qu'il arrivait à les fédérer autour de lui?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un fait. Lui et son épouse, Marie-Cécile, adoraient l'art et l'art plastique, et ils le voyaient en tout. J'ai appris, par exemple, en faisant le film, je ne le savais pas, que lui-même s'est un peu essayé à la poterie. Il avait à un moment acheté un four et il a fait, et j'ai vu des pots faits et signés Edmond El Maleh, et Marie-Cécile tissait, avait appris à tisser, et effectivement il était toujours entouré d'intellectuels et d'artistes et surtout de plasticiens. Et quand il allait au Maroc, il allait visiter les ateliers. Ce que j'ai appris avec lui, c'est qu'une œuvre, il y a une personne. Alors, c'est quelque chose que je connais très bien, moi, du cinéma. Pour moi, un film me touche lorsque je sens derrière ce film la personne qui l'a fait. Parce qu'il y a un regard. S'il n'y a pas de regard, pour moi, il n'y a pas d'œuvre. Je comprenais cela très bien pour le cinéma. Je le comprenais pas aussi bien pour l'art plastique. Et c'est en lisant les écrits d'Edmond, que je connaissais mal, en faisant ce film et en rencontrant ses amis plasticiens, que j'ai compris combien pour lui, l'homme qui était derrière l'œuvre était indissociable et peut-être encore plus important. Ce n'est pas les œuvres pour elles-mêmes qu'il aimait. Il aimait les gens qui faisaient les œuvres. Voilà.
Et finalement, on revient toujours à ce sujet essentiel et qui le caractérisait si bien, c'est sa vision des rapports humains, la façon dont il pouvait nouer des liens avec, est-ce qu'on peut dire, tout le monde. Il y a notamment ce monsieur qui va le photographier dans les dernières années de sa vie et qui en fait le rencontre complètement par hasard dans la rue. Il le voit essayer d'attendre un taxi, il le prend avec lui, et puis évidemment Edmond Amran El-Maleh insiste pour lui offrir un café, et de là naît une amitié. Donc finalement, est-ce que le personnage, cette figure, on va dire le point essentiel, c'est sa vision des rapports humains?
C'était l'homme le plus attachant que j'ai jamais connu, l'homme le plus hospitalier que j'ai jamais connu. Et puis peut-être un mot, c'était ça son communisme. C'est-à-dire, pour moi, Edmond est toujours resté communiste, même s'il n'a été communiste encarté que pendant 14 ans, ce qui est quand même beaucoup, mais enfin ce n'est que 14 ans dans une vie très longue. Mais il a rompu avec le communisme, bien sûr, lorsqu'il a bien compris l'étendue des crimes staliniens, et puis il ne voulait plus rien avoir avec tout ça, et puis le dogmatisme en général le l'indisposait beaucoup. Mais il a gardé du communisme ce qui était beau dans le communisme, à savoir, d'une part, le refus de l'enrichissement personnel, parce que Edmond n'a jamais rien possédé, que des tableaux et des livres, et les tableaux, c'était toujours des tableaux que les artistes lui offraient, et l'amour du peuple, l'amour du petit peuple et la proximité avec le petit peuple, et l'amour de la langue du petit peuple aussi. Il a gardé ça du communisme, et ça il l'a gardé jusqu'à son dernier jour, et c'est présent dans tout ce qu'il écrivait.
Alors, on arrive bientôt au terme de cet entretien avec vous, Simone Bitton. Peut-être pour conclure, et on l'a un peu évoqué déjà tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aujourd'hui, vous avez évoqué le fait que ces publications, on ait du mal à les trouver. Que pourrait-on, que devrait-on faire de mieux pour que son héritage reste vivant? Dans le film, vous êtes allé rencontrer un jeune doctorant à l'université de Kenitra qui consacre sa thèse au texte de feu Edmond Amran El-Maleh. Est-ce qu'il faut multiplier ce genre de... encourager peut-être la recherche sur sa vie et sur son œuvre? Vous qui l'avez connu, vous qui lui avez dédié ce film en parlant de ses écrits, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse de mieux pour que son héritage reste vivant et qu'il puisse encore inspirer aujourd'hui?
J'aimerais qu'il soit plus connu, qu'il soit plus reconnu, et pas seulement au Maroc, en France aussi beaucoup, et puis dans tous les pays francophones. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'édition, je ne sais pas très bien comment ces choses se passent, mais quelqu'un dit dans le film que ça serait bien, par exemple, qu'au Maroc, en tout cas, que l'on étudie quelques extraits de ces textes dans les programmes de littérature. Il y a peut-être qu'il faudrait passer au e-book, peut-être que ça serait plus facile que de rééditer des textes, des livres en papier, je ne sais pas. Mais si mon film pouvait, et puis il y a beaucoup de bonne volonté au Maroc, je le sais, il y a une fondation qui porte son nom, qui essaye de garder sa mémoire vivante et qui fait tout ce qu'elle peut. pour que certains textes soient réédités, mais ça reste très confidentiel, ça reste réservé à des salons du livre, à une élite. Enfin, il reste toujours que quand on entre dans une librairie, il n'y a pas de livre d'Edmond Elmaleh dans les librairies. Donc, je ne sais pas. Ces derniers temps, je me dis peut-être qu'un e-book. Je sais que Parcours Immobile dont les droits étaient chez Maspero, puis sont passés à l'édition de La Découverte, a été édité en e-book, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'acquérir pour quelques euros sur Internet et le lire sur une tablette. C'est peut-être ça la solution pour lui et pour beaucoup d'autres auteurs dont les livres sont épuisés et qui sont des grands auteurs et que sinon vont peut-être passer à la trappe, et ça serait c'est une idée qui m'est insupportable.
Merci infiniment, Simone Bitton, de nous avoir consacré cet entretien pour parler de votre film. Je rappelle son titre, Les 1001 jours du Hajj Edmond. Merci infiniment.
Merci, Hanan.
À bientôt.
Au revoir.